VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à Niamey, bienvenue à notre journal. Au Niger, l'opposition a annoncé hier à Niamey son retrait du second tour de l'élection présidentielle prévue le 20 mars. La coalition de l'opposition nigérienne, COPA 2016, soutenant l'opposant Ahmad Ahmadou, qui devait affronter le président sortant Mahamadou Issoufou, a justifié cette décision par l'absence de proclamation officielle des résultats du premier tour du 21 février et l'iniquité de traitement entre les deux candidats à la présidentielle. Le principal rival de M. Issoufou, Ahmad Ahmadou, est actuellement emprisonné dans une affaire controversée de trafic de bébés. On écoute le porte-parole de la COPA 2016, Ousseini Salatou.
L'opposition politique réunis au sein de la COPA 2016, décide de suspendre sa participation au processus électoral. Demande à ses représentants de se retirer de la CENI et de tous ses démembrements. Demande aux députés nationaux, militants des partis membres de la COPA, de cesser toute activité au sein de l'Assemblée nationale. La COPA tient le président Issoufou Mahamadou et la Cour constitutionnelle pour seul responsable de la dégradation de la situation sociopolitique au Niger.
Ousseini Salatou, porte-parole de l'opposition au Niger. Sénégal, 27 millions d'euros de biens appartenant à Karim Ouad, fils de l'ancien président sénégalais et ancien ministre, ont été à ce jour restitués au Sénégal. Karim Ouad est condamné à 6 ans de prison pour enrichissement illicite, Erit Madinakiza.
Deux sociétés sénégalaises spécialisées dans les services aéroportuaires et 6 appartements au Sénégal dans un complexe de luxe ont été confisqués, a déclaré Antoine Diomé, agent judiciaire de l'État sénégalais. Monsieur Diomé a aussi précisé que ces saisies représentent 27 millions d'euros. Ce n'est pas tout. 24 comptes bancaires à Monaco totalisant 11 millions d'euros ont été bloqués et d'autres biens font l'objet d'une procédure de saisie, dont 2 appartements dans le 16e arrondissement de Paris. Karim Ouad, fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Ouad, a été condamné en mars dernier par la justice sénégalaise à 6 ans de prison et plus de 210 millions d'euros d'amende. Il est accusé d'avoir illégalement acquis un patrimoine de 178 millions d'euros, ce qu'il a toujours nié. En début février, ses avocats ont déposé plainte à Paris pour dénoncer sa détention arbitraire.
Le Nigeria et la Suisse ont annoncé hier la signature d'une lettre d'intention pour restituer au Nigeria 321 millions de dollars détournés par l'ancien dictateur Sani Abacha. Sani Abacha, au pouvoir de 1993 à sa mort en 1998, est accusé d'avoir détourné plus de 2 milliards de dollars de la Banque centrale nigériane. Les 320 millions, 21 millions de dollars avaient été déposés au Luxembourg puis confisqués par un tribunal à Genève en décembre 2014. Le président sud-africain Jacob Zuma poursuit sa visite d'État de 3 jours au Nigeria, une visite qui vise à renforcer les relations entre les 2 plus importantes économies de l'Afrique. Les 2 dirigeants vont discuter notamment de coopération en matière de sécurité. Leurs consultations ont lieu au milieu d'une controverse. Le président nigérien Muhammadu Buhari a estimé hier que l'opérateur sud-africain MTN avait aidé l'insurrection islamiste de Boko Haram en ne désactivant pas des millions de cartes SIM anonymes. Mali maintenant, 200 jeunes qui appartenaient à des groupes djihadistes de la région de Mopti dans le centre du pays se sont engagés à quitter ces mouvements. L'opération de sensibilisation a été menée par plusieurs notables locaux et des imams. Combien de jeunes ont abandonné les rangs des djihadistes? Idriss Fall a joint Ama Cissé, maire de Togere-Kotia dans la région de Mopti.
Pour le moment, on ne peut pas évaluer puisque ceux qu'on a rencontrés sont en train de rencontrer les autres. C'est un processus qui continue. Certains ont accepté déjà, mais qui ne sont pas encore là, qui sont en train de sensibiliser les autres qui n'ont pas accepté. Donc, au fur et à mesure, ça augmente, mais on n'a pas un chiffre pour le moment.
Quand vous parlez de processus, vous avez commencé ce travail?
Le processus même a commencé depuis les accords d'Alger. Parallèlement, nous on a commencé. Donc, depuis ce temps, on est en train de sensibiliser les jeunes pour qu'ils reviennent. C'est un peu long. Depuis les accords d'Alger que nous avons commencé.
Comment est-ce que vous arrivez à identifier ces jeunes?
Ce n'est pas identifié puisque ce sont des gens de nos zones. Ils sont là-bas, ils ne sont pas dans les villages. Dès qu'on a rencontré les premiers, Maintenant, ce sont les autres maintenant qui sont en train de les identifier. Nous, on ne les connaît pas. Ce sont eux qui sont en train de le faire à notre place, après avoir accepté. Donc, eux-mêmes, ils voient les autres. Ce sont eux qui sont là-bas. Ils se connaissent tous entre eux.
Et pour la plupart, c'était des jeunes qui faisaient partie du Front de Libération du Massina.
Pas forcément du Front de Libération du Massina. Le Front de Libération du Massina, moi, c'est, il n'y a pas longtemps que nous avons entendu ça. Mais les gens ont commencé à les ramener bien à l'autre. On ne sait même pas ce front-là comment il est. Ce que nous savons, tous les jeunes qui sont partis, il y a certains qui sont du Nigeria, certains qui étaient des MLA, certains qui étaient des choses, ils étaient un peu partout. Maintenant, ils peuvent être du mouvement de libération, ils peuvent ne pas être du mouvement de libération, pour nous, on ne fait pas la différence. Nous, ce sont des jeunes de chez nous qui, à un moment, ont pris des armes pour des raisons. Eux-mêmes, ils le savent. Maintenant, il y a la paix qui va revenir, il faut essayer de les ramener. Nous, on ne sait pas qu'ils ont de Amadou Kouba ou Bendour, comme les gens le disent. Nous, tous ceux qui ont pris les armes, on veut qu'ils déposent.
Maintenant, les jeunes, ils reviennent. Est-ce qu'on peut leur garantir, ne serait-ce que trouver du travail? Parce que beaucoup de ces jeunes aussi, avant, n'avaient pas de travail.
Mais ces jeunes, quand ils reviennent, ils vont directement intégrer la plateforme ou bien la SEMA. Ils ne peuvent pas aller ailleurs. Ils rejoignent la plateforme où le SEMA est déjà signataire des accords d'Alger. Donc, immédiatement, ils vont avoir les mêmes avantages, la même chose.
Et il y a beaucoup d'imams de la région, des élus locaux qui participent à cette opération de sensibilisation.
Il y a beaucoup de personnes de bonne volonté. Il y a les élus, il y a des imams, comme vous le dites, mais plus ou moins anonymes et qui nous travaillent ensemble. Chacun connaît une localité où il peut dénicher certains. Ils parlent, ils les rencontrent, ils leur parlent posément, sans armes, sans rien. Ils sont nombreux dans la zone et à Bamako ici. Il y a beaucoup de bonne volonté qui sont là pour ramener ces jeunes à déposer les armes.
Amassissé, maire de Toguéré-Côtière, dans la région de Mopti, dans le centre du Mali.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Afrique du Nord, 7 terroristes ont été tués cette nuit à Ben Gordane, en Tunisie. Ces morts portent à 43 le nombre de djihadistes abattus depuis les attaques de lundi contre cette ville frontalière de la Libye. Ben Gordane a été placé sous couvre-feu nocturne après les sanglantes attaques djihadistes survenues lundi à l'aube, au cours desquelles 36 extrémistes, 12 membres des forces de sécurité et 7 civils ont péri, selon un bilan définitif. D'après les autorités tunisiennes, ces attaques ayant ciblé des installations sécuritaires dans la ville visait à créer un émirat du groupe extrémiste État islamique. En Algérie, la justice a condamné hier à 6 mois de prison, dont 3 mois ferme, un prédicateur salafiste qui avait demandé l'exécution de l'écrivain journaliste Kamel Daoud pour apostasie. Plus de détails avec John Lyndon.
Le journaliste et écrivain Kamel Daoud avait déposé une plainte pour menace de mort contre Abdel Fadah Amadash Zirawi. L'imam salafiste avait appelé en décembre 2014 sur sa page Facebook les autorités à le condamner à mort et à l'exécuter en public. Le chroniqueur au quotidien d'Oran avait critiqué le rapport des musulmans à leur religion. L'imam Zirawi, qui soutient l'interdiction stricte de l'alcool et le port du maillot de bain sur les plages, avait estimé que c'est une guerre déclarée contre les valeurs de l'islam. Il avait jugé coupable d'apostasie, passible de la peine de mort. Devant le tribunal de Rang, où il s'était présenté seul le 1er mars, l'imam Zirawi avait maintenu ses propos. Sa condamnation est sans précédent selon maître Khaled Bourayou, un avocat qui a défendu de nombreux confrères ces 20 dernières années. Le syndicat national des journalistes algériens s'est réjoui d'une excellente décision, même s'il souhaitait une peine plus sévère.
Conflit en Syrie. L'ONU a déclaré qu'une nouvelle série de discussions pour mettre fin à la guerre civile dans ce pays commencera à Genève au plus tard le 14 mars. Stéphane de Mistura, l'émissaire de l'ONU, dit qu'il est prêt à recevoir tous les participants dès aujourd'hui, mercredi. Et pour terminer, les primaires américaines. Donald Trump a remporté la mise dans le Michigan, le Mississippi et Hawaï côté républicain, tandis que chez les démocrates, l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton a subi une défaite surprise face au sénateur du Vermont, Bernie Sanders. Michel Joseph.
Donald Trump a remporté les caucus républicains à Hawaï, dans le Pacifique, sa 3e victoire de la nuit après le Mississippi et le Michigan dans la course présidentielle aux États-Unis. « Merci Hawaï », a tweeté le milliardaire américain en tête de la course à la Maison-Blanche dans son camp. Son adversaire Ted Cruz a remporté pour sa part la primaire républicaine dans l'Idaho mardi. Chez les démocrates, le sénateur du Vermont Bernie Sanders a marqué une victoire surprise Keys dans l'État du Michigan.
Voilà, c'est tout. Merci de votre attention.
Au cœur de l'info sur VOA Afrique.